C'est un silencieux.
En fait, alors, je dois dire, moi je fais carton plein sur les gens et que j'avais invités, ils sont tous là. J'en pense, je suis déçue. Bon, ça va être une petite rencontre intime. Vous nous entendez bien ?
Ça va.
Ça va, c'est cool. Bon, bah, en fait, on commence ? Oh, c'est bon. Alors, pour le coup, nous, on est ravis de recevoir Claire Duvivier. Alors, il faut savoir, pour la plupart des gens connaissent ici, le mois d'octobre, il y a quelque chose qui se passe qui s'appelle le mois de l'imaginaire. Et cette année, on s'est dit, histoire d'être un peu plus qu'une vitrine, quelques collections qu'on met en avant, eh bien, on va inviter un auteur. Et cette année, on a eu un super coup de cœur. Vraiment. C'est un livre qu'on a lu une fois, deux fois, ouais. Qu'on relira même une troisième fois avec Jean-Paul, parce qu'on a adoré. C'est un livre de fantaisie qui s'appelle « Un long voyage » de Claire Duvivier. « Un long voyage », c'est un titre qui évoque beaucoup de choses. Alors déjà, on a aussi une petite particularité dans cette rencontre, c'est qu'on a des auteurs et deux éditeurs. Claire, qui est coéditeur, et David Melemont, qui est aussi éditeur. Donc ça nous donnera aussi peut-être l'occasion de parler du monde de l'édition. Mais d'abord, on voudrait, Claire, que vous vous présentiez en quelques mots.
Oui, alors bonjour à tous. Merci Linda pour l'accueil. En quelques mots, eh bien, je m'appelle Claire Duvivier. Je suis éditrice aux éditions Asphalt, qui est une maison que j'ai fondée avec Estelle Durand il y a 10 ans. En fait, de 10 ans. Et je suis aussi donc l'autrice de Un long voyage, mon premier roman, qui est sorti au mois de mai aux éditions Aux Forges du Vulcain. Voilà.
Et je crois qu'il faut que tu t'avances un petit peu, comme ça, ouais. On tu seras plus présent.
Tu veux que je participe au feu de camp.
Pour qu'on brûle pas les livres.
Voilà, oh bah non, surtout pas. Oui, moi j'avais une question justement par rapport à Asphalt qui vient de fêter ses 10 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé, on sort un tout petit peu pour l'instant du roman, à justement vous lancer dans ce travail, dans ce métier ?
Dans le métier d'éditrice, hein ?
Voilà.
Moi je suis arrivée dans l'édition par amour du livre en fait. J'ai toujours aimé les objets livres, j'ai toujours une fascination pour cet objet. Donc pendant mes études, j'ai commencé à travailler dans l'édition. Au début, je travaillais pas du tout dans l'édition littéraire, mais dans l'édition médicale, en fait, ce qui était très formateur. Et puis au fur et à mesure, quand j'avais fait des études de lettres, j'ai eu envie de me rapprocher un peu plus de l'édition littéraire, de littérature, on va dire, de l'édition de genre aussi. Effectivement, j'ai fait un court passage dans une collection de science-fiction chez De Noël. Et j'ai aussi, je suis partie en Allemagne travailler dans une maison d'édition de science-fiction à Munich. Et en fait, à mon retour, j'avais connu Estelle Durand à la fac. Et on s'est dit que c'était peut-être le moment de créer notre propre maison. On aurait pensé le faire un peu plus tard et continuer un peu nos carrières dans notre maison. Mais on avait fait un peu le tour de nos postes. Et on avait du mal à trouver le poste de nos rêves. Donc on s'est dit, on va fonder notre maison comme ça, on fera exactement ce dont on a envie. Ce qui était complètement naïf et un peu idiot, mais 10 ans après, on est encore là, on est bien contente, on a fait beaucoup d'erreurs, mais nous sommes toujours là.
Peut-être préciser un tout petit peu le type de roman que vous éditez, parce qu'on est un petit peu loin de la fantaisie.
On est très loin de la fantaisie, oui, même si on a quelques titres qui flirtent un peu avec l'imaginaire. Les éditions Asphalt ont publié de la littérature contemporaine. Beaucoup de fictions qui sont en général sur des thématiques autour de la ville, de la contre-culture, de la musique, des choses comme ça. Donc ça, c'est des ingrédients qu'on retrouve beaucoup. On a pas mal de littérature étrangère, beaucoup de sud-américains notamment. Ils sont très présents au catalogue, mais aussi des hispanophones, des espagnols, des anglophones, voilà. Des français aussi, depuis 2014. Notamment Timothée Demeyer qu'on a suivi depuis le début et dont on vient de publier le troisième roman qui s'appelle Demain la brume. Et on a aussi une collection de recueils de nouvelles noires en fait, qui sont chacun axés sur une ville. Donc on a Paris noir, Londres noir, Los Angeles noir. À chaque fois, c'est des auteurs locaux qui nous livrent des nouvelles sur leur quartier. Donc c'est vraiment une façon de découvrir la ville par les yeux de ces auteurs. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux pans de ce qu'on fait chez Asphalt. Effectivement, on est très littérature blanche, littérature noire, Même si on a quelques titres qui flirtent avec l'imaginaire, effectivement, on a peu de titres qui se trouvent dans ce rayon-là en librairie.
D'ailleurs, on peut vous demander comment, même si je connais un petit peu la petite histoire, vous êtes arrivé aux Forges de Vulcain ?
Je suis arrivée aux Forges du Vulcain parce que je connais David depuis un certain nombre d'années. Il se trouve que lui aussi, il a une maison d'édition qui a une dizaine d'années. Donc forcément, on s'est beaucoup croisés sur les salons, à différentes occasions interprofessionnelles, on va dire. Et notamment, très souvent sur les salons, on se retrouve sur des stands côte à côte, ce qui nous a permis de sympathiser au bout d'un moment quand même, de s'inspirer l'un de l'autre. Et à force de parler avec lui, je voyais bien un peu sa ligne éditoriale. J'arrivais à parler de ses livres, même ceux que je n'avais pas lus, tout simplement parce que je l'entendais en parler. Et à un moment donné, lors d'un festival, il m'a demandé si j'écrivais. En fait, oui, c'est juste que j'en parlais à personne. Mais étant un peu en confiance, je lui ai avoué que oui, que j'étais en train de finir quelque chose. C'était un long voyage. Et du coup, je lui ai envoyé. Voilà.
Et là,
je pense qu'au début, il était un peu inquiet en se disant « Oh là là, il va falloir que je dise non à une consoeur, ça va être un peu compliqué, franchement, je vais en lire 2-3 pages, histoire de dire, mais voilà. » Et puis finalement, en fait, ça lui a plu quand même, donc...
Non, quand j'ai une idée qui pique déjà, rien que ça, tout de suite, on est plongé dedans. Je trouve. Et donc, c'est comme ça.
Et c'est comme ça que ça s'est fait, voilà.
On va revenir peut-être à votre roman. Donc, quelle est la genèse de l'histoire de Liesse de Rohenua?
je pense que je ne suis pas tout de suite partie des personnages, mais je suis partie d'un événement qui a lieu plus loin dans l'intrigue, en fait. Est-ce que tout le monde a lu le roman, juste pour savoir?
J'allais poser la question.
Non, je ne l'ai pas lu.
D'accord.
Donc,
on ne va pas trop... Je suis partie, en fait, d'un événement un peu clé du roman qui se déroule à peu près aux 2/3.
Qui est un événement clé.
Voilà. Et effectivement, j'ai voulu amener en fait le roman jusqu'à cet instant clé. Et du coup, je l'ai meublé, décoré, je l'ai garni en fait, d'un univers, d'une situation géopolitique, de personnages. Et en fait, en remontant tout ça, je suis venue à la création des deux personnages principaux, donc Liesse et Malvine, qui fonctionnent un peu en paire. Ce sont des personnages qui se complètent. Et à partir de ce moment où j'avais tout conceptualisé d'un côté, je me suis mis à hauteur de ces deux personnages-là. Et du coup, j'ai redéroulé l'histoire jusqu'à arriver à ce moment clé que je voulais raconter. Je ne sais pas si c'est très clair, mais...
D'ailleurs,
vas-y.
D'ailleurs, peut-être que vous pouvez nous résumer peut-être l'intrigue du roman, sans trop comme ça vous donne.
Voilà. Donc en fait, Un long voyage, c'est l'histoire de Liesse qu'il raconte lui-même. Liesse, on devine que c'est un très vieil homme et que quelqu'un qui s'appelle Gémétous lui a demandé de lui raconter sa vie. Et notamment les relations qu'il avait avec un personnage qui s'appelle Malvine Zélina de Félarazie. Donc Liesse, c'est un fils de pêcheur qui était orphelin, qui a grandi dans un archipel au milieu d'un océan dans lequel il y avait un comptoir commercial lié à un empire très lointain. C'est dans ce comptoir commercial qu'il a grandi, parce qu'il a été vendu comme esclave à ce comptoir. Et au bout d'un moment, sur cet archipel arrive une espèce d'ambassadrice de l'Empire, qui est Malvine Zélina de Félarazie, donc qui est vraiment tout ce que lui n'est pas. Elle est très haut placée socialement, d'une famille qu'on devine très riche, elle a beaucoup de pouvoir, c'est une femme de pouvoir, c'est une femme qui a reçu une grande éducation. Et son but, c'est de changer les choses sur l'archipel, en fait, et de le moderniser d'une certaine manière. Et en fait, ces deux personnages qui auraient pu ne jamais se croiser ou ne jamais se lier, finalement, vont bien s'entendre. Elle va l'embaucher comme secrétaire et au moment où elle va quitter l'archipel pour aller à son poste suivant, dans une autre province, elle va l'emmener avec lui, en fait. Et dans la suite du roman, du coup, il va assister à la fin de cet empire mystérieux, à la suite d'événements, du coup,
dont
je ne dévoilerai rien.
Tu veux dire quelque chose?
Moi, en tout cas, pour avoir lu une première fois, en tout cas, l'histoire donc, de ce narrateur, on va parler un petit peu du style. Moi, j'ai été vraiment frappé tout de suite par la fluidité du récit. Alors, j'aimerais bien savoir comment vous êtes arrivé à ce travail autour du style sur le roman, parce que c'est un roman relativement court, hein, il a 300 pages. Voilà. Mais c'est un roman aussi d'une densité au niveau de l'histoire que vous racontez. Je l'avais mis un petit peu sur mon blog, il y avait 573 cm3 de, vraiment de concentré d'histoire. Donc comment vous êtes arrivé avec un style aussi fluide à remplir autant de pages de ce bouquin qui accroche en tout cas pour moi le lecteur?
L'idée c'est que je voulais, comment dire, qu'il y ait des variations de rythme en fait, et que ça, enfin, ça donne un peu un souffle au roman. C'est-à-dire que au lieu de me concentrer trop sur les jeunes années de liesse, ou effectivement faire un roman de fantasy classique où on suit le personnage année après année, on le voit avoir des. Je voulais qu'il y ait une espèce d'ellipse hein, là-dessus, et que globalement, on ait tout un premier tiers du roman où les années défilent vite, où Lias grandit, Lias fait des expériences, Lias rencontre Malvine. Ensuite, on arrive à une espèce d'acmé du roman qui est tout le passage à Solmery avec l'événement principal, on va dire. Et qu'ensuite, il y a toute une. Là où normalement, parfois, les romans s'arrêtent, qu'on continue et qu'on reste avec le personnage et qu'il se passe encore pas mal d'années. On voit Lias continuer à vivre sa vie, à avoir des expériences, à avoir des. Voilà, donc l'idée, c'était que. Martin Solares a écrit un essai sur la forme des romans, donc il fait des dessins selon différents romans pour dire voilà, ça lui exprime ça. Moi je voulais un roman comme ça en fait. Pas comme ça, mais vraiment comme ça. Je voulais qu'on parle beaucoup de l'avant, de l'après, pour que ça pose un peu les personnages et qu'on ait un peu une petite lenteur au début pour s'installer dans le roman, qu'on fasse connaissance avec le personnage. Je voulais qu'un personnage comme Malvin, je voulais pas seulement qu'on dise c'est un personnage brillant. Parce que moi, narrateur, je le dis, mais je voulais qu'on la voie faire des choses intéressantes, en fait. Donc c'est, du coup, voilà, je voulais que le rythme varie beaucoup pendant le roman pour surprendre aussi le lecteur, pour un peu, enfin, pas l'endormir, mais l'habituer à une espèce de langueur un peu archipélienne, et puis tout d'un coup, accélérer d'un coup le récit.
Parce que il faut dire à ceux qui l'ont lu, savent déjà, ceux qui ne l'ont pas lu, on est dans un roman de fantasy. Et en fait, qui est-ce qui est assez étonnant dans votre roman et ce que j'ai trouvé génial? Alors, c'est que d'une, déjà, rien que par la couverture, vous échappez au code de la fantaisie. Il détonne sur
J'adore
ma table.
Cette couverture.
Je l'adore aussi. Ça détonne par la brièveté du récit. D'habitude, on en fantaisie, on a un tome, deux tomes, trois tomes, voire beaucoup plus. Autre chose, vous nous présentez des personnages qui échappent au côté héroïque, à l'épopée. En fait, on a deux personnages, que ce soit le côté brillant avec une extraction sociale, on l'imagine, elle est noble, comme vous le dites, mais en fait, par certains codes, et c'est ce qui m'a étonnée et ce qui m'a permis aussi de rendre accessible ce roman à beaucoup de lecteurs, c'est que vous faites un roman de fantasy sans que ce soit un roman de fantasy. Et ça, je me disais, mais c'est
étonnant. Oui, j'étais très lectrice de fantasy à une époque. Après, j'en lis moins depuis quelques... Là, je m'y suis remis récemment. J'en ai lu un peu moins pendant quelques années parce que, travaillant pour Asphalte, effectivement, j'étais plus dans l'actualité littéraire contemporaine, littérature blanche, littérature noire et tout. Je suis une lectrice très éclectique. J'aime bien passer d'un genre à l'autre. En plus, ce que j'aime bien, c'est quand on délaisse, entre guillemets, un genre quelques années, quand on revient, on a laissé passer 3-4 chefs-d'œuvre et du coup, on les découvre tous en même temps. C'est vraiment bien. mais effectivement, j'avais aussi... dans mon travail d'éditrice, déjà, j'aime pas trop les étiquettes. J'aime bien les romans qui sont très... un peu le cul entre deux chaises. J'aime bien les romans qui sont un peu inclassables. Effectivement, en écrivant, j'avais envie de faire de l'imaginaire. Parce que le petit nœud de l'intrigue que j'avais en tête, de toute façon, ça peut se faire que dans un monde imaginaire. Mais après, j'avais envie que ce soit un peu entre deux aussi, quand même. Quoi. Je ne me voyais pas faire vraiment un cycle de fantasy vraiment classique. J'avais envie que ça surprenne. Bon, voilà. Je ne sais pas si ça marche peut-être pas avec tous les lecteurs, mais l'idée, c'était vraiment de surprendre le lecteur sur ses attentes, en fait.
Oui.
Donc jouer un peu avec les codes de la fantasy. Proposer du coup ce monde imaginaire, cet archipel, ce jeune orphelin, on va se dire voilà, il est forcément destiné à des choses grandioses, il va y avoir une quête et à la fin il va finir roi ou des choses comme ça. Me glisser un peu dans ces attentes-là pour pouvoir un peu les déjouer au bout d'un moment.
Ouais, vous avez utilisé tous les codes en fait, mais vous avez fait plutôt sur l'entre-deux en fait, qui est disponible par tout l'imaginaire et pas par la structure ou par même une formalité dans le texte. Et ça, c'est génial. Le personnage de Liesse. En fait, la première fois que j'ai lu le roman, je savais pas trop quoi penser de ce personnage. Yes, ok, jeune orphelin. Alors, il a quand même échappé de peu à la rivière et à une mort certaine. D'ailleurs, il faudra nous parler en fait de comment il échappe à cette condition, parce qu'il y a des thématiques importantes dans votre roman, et notamment l'esclavage en est une. Donc, on pourra revenir dessus. Mais donc, ce jeune homme a un destin qui est tout tracé suite à la mort de son père et à cette famille, cette mère qui ne peut plus s'occuper de toute la fratrie. Il échappe à tout ça, et en fait, il échappe à une condition d'esclave. On se dit, effectivement, il va lui arriver des choses grandioses. Et quand je l'ai vu, à la première lecture, comme ça, que son histoire se déroule, je me suis dit, il a 5 ans, vide. Il est tranquille. Mais qu'est-ce qu'on va en faire?
Secoue-toi,
Liesse. Parce que là, pour le coup, mais il est où le personnage héroïque, les hautes faits de guerre, le côté... Rien du tout. Comment vous l'avez construit, ce personnage? Comment vous l'avez pensé?
Ben justement, j'ai essayé de faire en sorte de cristalliser en lui des attentes de lecteur que je peux avoir moi-même quand je lis de l'imaginaire, ou même quand je lis n'importe quel... de dire, ben voilà, je m'attache à ce personnage, j'ai envie qu'il lui arrive des choses incroyables, quoi, ou traumatisantes, ou des choses comme ça, mais qu'il lui arrive des choses et que ce soit... Bon, c'est pas qu'il lui arrive rien, Liesse, mais
non,
l'idée, c'était effectivement...
Il
lui arrive plein de... Enfin, l'idée, c'est qu'est-ce que c'est l'héroïsme? Qu'est-ce que c'est d'avoir un grand destin? Est-ce que c'est réussir à devenir le roi d'un pays, ou à... estourbir les méchants ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est vivre sa vie malgré tout, malgré l'adversité? Est-ce que c'est fonder un foyer? Est-ce que c'est réussir à transmettre quelque chose à ses enfants? Est-ce que, enfin voilà, c'est réussir à poser des questions sur qu'est-ce que la grandeur d'un personnage.
C'est des personnages qui évolue le plus dans le texte. Alors parce que je trouve qu'en plus vous faites un roman à tiroir, on a juste en fait à ouvrir des petites portes de temps en temps, et en fait à chaque fois il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à nous. Et avec Liesse, c'est un des... Parce que le début, l'incipit, je trouve que tout le monde doit dire la première page de ce bouquin. Parce que la manière dont vous interpellez le lecteur, on sait tout de suite que vous allez jouer avec nous. Il y a un côté très sévère, très austère, quand il s'adresse à cette « j'aimais tout » et à qui il dit « j'aimais tout ma hiératique, c'est pour toi que j'allume cette lanterne, que je sors ces feuilles, que je trempe cette plume dans l'encre. À vrai dire, je me lance dans cette entreprise sans savoir si je pourrais le mener à bien. » En fait, vous allez faire ça pendant tout le roman. En fait, en utilisant Liesse, qui va être le témoin en fait, du destin de Malvine, vous allez, en fait, comme ça, tout le temps jouer avec nous. Ça a dû être un véritable plaisir, ça, de jouer avec nous.
Oui, j'aime bien jouer sur les attentes du lecteur. Et effectivement, l'adresse au lecteur, c'est idéal pour ça. Et surtout, avec ce personnage de Liesse, ça permet un peu parfois de tendre quelques perches, d'annoncer deux, trois choses, ou alors au contraire de dire « Oh non, finalement, je vais pas en parler », ou enfin... Il y a un côté un peu ludique, c'est sûr, dans l'écriture, de pouvoir un peu dialoguer comme ça. Bon, après, c'est un dialogue un peu faussé, parce que j'ai pas la réponse énervée du lecteur ou de la lectrice dans lequel j'aimais tous, quoi. Mais oui, c'était l'idée, oui, de faire un peu le côté ping-pong.
Comme j'ai beaucoup parlé, là.
Bah, justement, moi, je vais rebondir, c'est qu'on a relu le roman une deuxième fois, il n'y a pas très longtemps. Après l'avoir lu avant sa sortie et au moment de sa sortie, et j'ai eu l'impression qu'on redécouvrait un nouveau récit à cette deuxième lecture. C'était plus fouillé, plus descriptif. Alors je ne sais pas si c'était le moment du Covid là où moi je l'ai lu, ça c'était une période un peu troublée. Avec humour, j'ai dit que l'armique est-elle une langue magique. L'armique, c'est la rédaction...
C'est la langue de l'Empire, oui, voilà, dans laquelle Liesse écrit, qui est devenue sa langue maternelle, voilà. Alors qu'à la base, ce n'était pas sa langue maternelle. Enfin, qui est devenue sa langue de cœur.
C'est vrai que cette deuxième lecture, et je suis sûr que si on relit ça une troisième fois, c'est ça qui est bien, c'est que je ne me suis pas ennuyé à la deuxième lecture non plus, et que c'est vraiment un roman qui accroche, mais à chaque fois on prend des petits éléments qui nous ont peut-être échappé. Moi, il y en avait certains que j'avais un petit peu oubliés, et là je les ai remis en lumière, et c'est vrai que c'était vraiment une très très belle redécouverte d'un roman, ce qui est rare, souvent on lit une fois, puis voilà. Là, honnêtement, on était tous les deux d'accord là-dessus. La deuxième lecture prolonge encore le plaisir.
Mais d'ailleurs, moi, ce que je disais par rapport à Liès ou par rapport à certaines actions, ça m'a permis de m'approprier l'univers, d'éclairer certaines choses, et aussi d'apprécier différemment certains personnages. Par exemple, Liès, à la première lecture, il y avait des choses qui m'avaient échappé quant à l'esprit en fait de cette quête, parce qu'effectivement c'est un roman initiatique, un long voyage. D'ailleurs j'aime beaucoup le titre pour ça, parce que l'idée du voyage, je pense que vous n'avez pas choisi le titre au hasard.
Oui, c'était difficile de choisir le titre, il est arrivé vraiment sur le tard en fait.
Et pour le coup, c'est un long voyage, mais parce qu'effectivement, ce qu'on disait, on échappe au code de la fantaisie, et vous faites une fantaisie qui n'est pas une fantaisie. Alors, il y a le côté politique de la fantaisie, parce qu'on aura. C'est un livre très politique où vous abordez des thèmes comme l'esclavage, comme l'exclusion sociale. Alors, je ne vais pas parler de féminisme, parce que pour le coup, je pense que ça, vous n'avez pas voulu faire un texte féministe, parce qu'effectivement, c'est une société où les femmes sont à égale valeur de l'homme. Mais je pense que c'est.
Ah oui, pour moi, c'est. Et en imaginant une société, ça me venait assez naturellement, c'était pas...
On se disait que derrière ces deux personnages qui sont deux personnages forts, il y a toute une galerie de personnages secondaires qui est très importante aussi, et derrière ces deux personnages, il y a un empire. Il vient d'où cet empire?
Il s'est un peu constitué au fur et à mesure, hein. Vraiment, c'est...
On dirait qu'il y avait un rapport avec le côté médiéval sur certaines thématiques, notamment...
Ah oui. Ouais. Ben, je sais qu'en général, en fantaisie, on pense souvent médiéval. Ouais. Moi, j'avoue, j'étais plus Renaissance. Mmh. Après, l'idée, c'était aussi d'introduire de l'historicité, en fait, ce qu'on n'a pas souvent en fantaisie, c'est-à-dire, effectivement, c'est cet empire, il a un passé, il y a une antiquité qui existe, il évolue. Mmh. La navigation fait des progrès, et des choses comme ça, enfin voilà, et puis il évolue et, au point de s'effondrer au bout d'un moment. Donc, ouais, l'idée c'était de faire un état, en fait, qui a une vie, qui a une apogée, puis qui disparaît, quoi. Et en fait, c'est une civilisation comme ça qui disparaît au cours du roman. C'est pas la seule civilisation à disparaître au cours du roman, mais voilà.
Votre regard sur la fin du monde est assez étonnant, parce que je trouve que souvent il y a un côté catastrophisme quand on parle de fin du monde. Et vous, votre roman, il a une manière d'étudier la fin du monde
Ouais, enfin c'est la fin d'un empire, mais en même temps les gens sont toujours là, en fait, et c'est ça qui compte, quoi. Donc l'idée c'était de raconter l'empire, certes, donc il y a des histoires, il y a des détails sur le passé de l'empire, sur l'histoire de l'empire, sur les chroniques de l'empire, mais finalement ce qui est important c'est le regard des personnages là-dessus, en fait, et c'est le fait qu'ils évoluent dedans. Mais l'idée c'était pas de faire une encyclopédie de l'empire.
Non.
Vraiment, enfin moi en termes de fantasy, tout ce qui est construction de monde, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'était vraiment de voir, j'ai développé l'empire en fonction de ce dont j'avais besoin pour mon intrigue et pour mes personnages.
Parce qu'en fait, effectivement, c'est pas un roman qui parle ni d'empire, ni de... Enfin, qui ne parle pas en fait de ce côté que l'on peut retrouver dans les romans de fantasy. Mais en fait, c'est un roman qui vous parle d'homme, d'humain. Et c'est par le regard de ce témoin, Liès, en fait, effectivement, qu'on va avoir ce débordement, mais qui va traiter plutôt l'aspect humain des choses que effectivement l'aspect empire et tout ce que cela peut concerner et faire dans un roman de fantasy. Et je trouve que, enfin franchement, ça fonctionne hyper bien, quoi. Parce que c'est ces deux personnages effectivement sont en opposition par leur extraction sociale, par la manière dont ils vont voir le monde, et en fait ce que vous nous racontez, c'est une belle histoire d'amitié.
Oui.
Et c'est rare.
C'est complètement ça. C'est effectivement, c'est une histoire d'amitié. C'est justement, j'aime bien quand on me dit oui, c'est une histoire d'amitié, parce qu'effectivement, jamais je prononce ce mot, parce qu'effectivement, lui, il a une loyauté à toute épreuve. Elle est quand même sa supérieure hiérarchique. C'est compliqué. Enfin voilà. Mais sur la douzaine d'années qu'ils vivent en commun, effectivement, oui, c'est une vraie amitié qui s'est développée, quoi.
Bah, je trouvais qu'ils avaient créé une intimité incroyable par un geste. Parce qu'en fait, ils se parlent peu, ils échangent peu. Et en fait, quand Malvin a ses crises et qu'en fait, il lui met la main sur le bras pour calmer ses crises.
Oui, il la touche en fait pour calmer la crise.
Ouais. Tout est dit dans le geste.
Il la toucher, ouais.
Et je trouvais ça en fait très beau. Et dans ce roman, c'est justement cette intimité, ce au cœur de l'homme que l'on fait. Et justement, c'est pour ça que l'évolution de Lies est passionnante, est intéressante, parce que effectivement, vous pouvez nous décrire un petit peu le personnage de Lies et comment vous l'avez construit.
Autrement que par son histoire.
Bah, en fait, raconter comment il est né, ce à quoi il a échappé, cette petite scène aussi avec. Parce que je veux rebondir sur autre chose qui est notamment le rapport à la langue dans votre roman.
Donc, Lies, en fait, donc, est né dans l'archipel, donc vraiment d'une famille de pêcheurs pauvres, donc aucune éducation. Son père meurt suite à une erreur humaine de sa part, on va dire. Comme il est de coutume dans son village, du coup, il se trouve que la famille n'a plus les moyens, en fait, parce que lui, il a trois frères et sœurs, comme ça. À une époque, globalement, quand ça arrivait, on prenait un enfant en trop, on le jetait à la mer, et voilà. Radical. Là, ils disent, bon, quand même, on est civilisé, donc ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va l'emmener à la ville et on va le vendre comme esclave, c'est quand même plus humain, quoi. Bon, voilà. Donc le petit Lies, âgé de 6-7 ans, on va dire, est emmené à la ville. Il est vendu du coup comme esclave à ce comptoir commercial qui appartient à l'Empire. Le comptoir commercial, un peu gêné aux entournures, parce que bon, l'esclavage, bon, déjà c'est pas très très bien, et puis surtout ça se fait plus du tout dans l'Empire, vraiment c'est quelque chose du passé. Donc là encore on est sur l'Empire qui a évolué, qui fait plusieurs de choses. Mais voilà, il y a un des deux employés du comptoir qui se dit, si ce gamin, on ne le prend pas avec nous, en fait, elle va le vendre à une taverne du port, ou elle va le tuer elle-même, ou en fait, par humanité, on va l'acheter, ce gamin. Après, il n'est jamais élevé comme un esclave, enfin, il n'est jamais considéré comme un esclave, mais en fait, il y a quand même un contrat. C'est pas vraiment l'esclavage, c'est ce qu'on avait aux États-Unis à une époque, une nature servante. C'est du contrat de servitude, en
oui,
fait.
C'est donc, idée, ouais.
Ouais. Et donc, il a un contrat de servitude, mais il grandit dans ce comptoir qui, en plus, est peuplé d'employés qui ont été un peu envoyés à l'autre bout du monde parce que qu'ils sont pas, on va dire, c'est pas des foudres de guerre, c'est des gens qu'on a mis au placard. Donc, il y a une espèce de bienveillance un peu placide qui l'entoure. Et il va grandir, du coup, dans cet entourage-là. Il va commencer à parler la langue de l'Empire, donc l'armique. Qui va bientôt maîtriser très bien, enfin, comme font les enfants. Il sera toujours en fait déchiré entre son côté insulaire, un peu rejeté par les autres insulaires, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il a été séparé de sa famille, on l'a frappé de tabou en fait. Donc c'est sûr que sur son île natale, c'est comme s'il n'existait pas. À la ville, ça passe encore, mais bon, on sent qu'il y a quand même un truc un peu louche avec lui. Et du côté des impériaux, on va dire, des gens de l'Empire, c'est quand même un autochtone, quoi. Donc, c'est pas tout à fait quelqu'un qu'on va considérer sur un pied d'égalité. Donc, il est toujours un peu partagé entre ces deux identités-là. Et effectivement, quand il va partir pour la province de Solmery pour travailler avec Malvine, il arrive dans cette province de Solmery qui est une province de l'Empire, donc on parle l'armique. L'armique est la langue du pouvoir. Mais il y a une langue locale, qui est le solméritain, qui est la langue familiale, qui est la langue des relations humaines, sociales, on va dire. Il va faire des enfants avec une solméritaine, hein, des enfants avec qui il va parler en armique, il va parler en solméritain, et il va parler parfois un peu dans sa langue natale, qui lui revient un peu quand il a des enfants. Donc là, déjà, on plonge dans trois langues à la fois, quoi. C'est un peu compliqué. Bon, je vous rassure, hein, je ne mets pas les langues différentes dans le roman. Et effectivement, j'ai voulu un peu jouer avec l'importance des langues dans le quotidien, et puis le fait aussi que cette place peut changer, et qu'une langue qui est dominante, à partir du moment où, par exemple, l'Empire s'effondre, l'armique n'a plus cours, et très vite, en fait, les Solméritains se remettent à parler leur langue, et leur langue redevient une langue de pouvoir, en fait. Ouais, donc c'était ça sur les passations un peu de...
Ouais, mais d'ailleurs, pour Lies, ça va être très compliqué, parce qu'une fois qu'il quitte son île natale, quelque part, à cause de la langue, à cause de papier, à cause de ce contrat, quand il va vouloir vivre sa vie, se marier... c'est quelque chose qui va le suivre toujours.
Mais l'existence même de Lies, c'est un problème juridique du début à la fin.
Enfin, et c'est assez terrible.
Il est étranger partout où il va, y compris sur son île natale, puisqu'il est à moitié employé impérial, on sait pas trop. Il arrive à Solmeret, donc là il est 100% étranger, ça c'est sûr. Et en fait il va rester là et il sera toujours considéré comme un étranger. Il aura toujours du mal à rendre officielle son existence, parce que bah en fait il est censé être un esclave dans un empire où l'esclavage est interdit, donc théoriquement il devrait même pas exister. Il peut pas avoir la citoyenneté de l'empire parce que parce que l'archipel et donc ça va être une grande complication toute sa vie, et toute sa vie ça va être difficile du coup de s'insérer dans dans cette patrie de qui est devenue la sienne, enfin ce pays qui est devenu le sien, pas par choix mais parce qu'il a pas eu le choix finalement.
Et d'ailleurs il va énormément évoluer. Parce qu'effectivement, au début du roman, il est admiratif de cet empire. Mmh. Il nourrit beaucoup de choses.
C'est son rêve, l'empire.
Et pourtant...
C'est un enfant, on lui raconte des histoires de l'empire qui est à l'autre bout du monde.
Et à côté très fantastique.
C'est des histoires de guerre, de bataille, c'est glorieux, c'est incroyable, l'empire c'est magnifique. Pourtant, même les gens qui l'élèvent disent « Oui, bon, l'empire, hein, tu sais, hein, il assassine la fiche de paille, quoi. » Mais effectivement, quand il va vraiment arriver à l'empire, dans l'empire, hein, oui, c'est un peu la désillusion, parce que globalement, c'est quand même des gens qui le regardent de haut et qui ne l'acceptent pas, quoi. Donc,
Mais il y a un passage terrible, en fait, quand il se rend compte qu'il s'était jamais rendu compte qu'il était esclave. Mmh. Et que pour le coup, c'est le regard des autres qui lui apprend, fait prendre conscience de ce qu'il est.
C'est notamment la scène avec la jeune comédienne, entre guillemets, qui lui fait sentir que là, il
est... Son ami d'enfance, d'ailleurs.
Voilà.
Oui, qui le rejette.
Et moi, ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'il se donne même un nom, alors qu'il n'est qu'un prénom, entre guillemets, Yes. Il se donne, au tout début du roman, il se donne un nom, ce qu'il n'a jamais eu. Et c'est vraiment très fort à ce moment-là.
Oui, il décide en fait de... En arrivant dans l'Empire, il est juste Yes, parce que sur l'archipel, les gens n'ont qu'un prénom. Et effectivement, ça ne fait pas très sérieux, tout le monde a un patronyme ou quelque chose. Et il s'invente en fait un nom, en mettant juste le nom de son île natale, donc... Lias de Rouen et Noir, juste pour se donner une contenance en fait. Voilà.
Mais il se vieillit, il change.
Il essaye de se vieillir pour être pris au sérieux.
Pour être pris au sérieux pour le coup.
Moi je voulais qu'on revienne juste un tout petit peu vers Malvine, qui est un personnage assez étonnant parce que c'est un personnage haut placé. Qui a eu déjà une vie administrative notamment, qui a suivi des grandes écoles, etc. etc. et qui arrive donc au tout début du roman sur cette île, et elle se montre beaucoup plus humaine, entre guillemets, que certains, même des personnages qui sont aux ordres et tout ça. Moi j'ai trouvé qu'il y a quelques moments, notamment quand elle plonge les mains dans la terre pour sentir comment elle est la terre, ou quand elle regarde le costume de Merle, à un moment donné, elle se précipite, vous le dites d'ailleurs très très bien, et elle devient de plus en plus humaine, je trouve, et on s'aperçoit qu'en fait, elle a compris un certain nombre de choses, elle fait partie de l'aristocratie, mais quand même, elle reconnaît à ces gens une légitimité, et qu'elle se comporte humainement, ce que ne comprennent pas forcément certains d'autres personnages.
Mais en fait, ils s'attendent à voir arriver, quand on leur dit que la nouvelle ambassadrice arrive, ils s'attendent à voir arriver une espèce de créature marmoréenne qui suit uniquement les ordres de l'Empire et qui est très sur les règles, sur les choses comme ça. Et effectivement, Malvine, c'est quelqu'un qui a une plus grande capacité d'adaptation que ça. Ouais. Et qui sait très bien que si elle va à l'autre bout du monde, c'est pas pour expliquer comment ça se passe l'Empire et qu'il faut faire la même chose ici, quoi. C'est donc quelqu'un qui va essayer d'intégrer un peu des coutumes locaux, en fait, ou des façons de fonctionner locales à son propre travail, en fait. Puis d'ailleurs, Malvine, c'est quelqu'un qui, que ce soit d'abord avec Merle ou ensuite avec Lias, qui elles-mêmes ne s'entourent que de gens qui sont en dehors de ce système-là, de ce système académique de l'Empire.
Moi, j'avais une autre question. Il y a quelque chose d'assez terrible dans votre roman. Par contre, c'est le rapport à l'enfant, à la maternité. En fait, on a l'impression que l'enfant n'est que marchandage. Et que l'enfant, alors, on ne peut pas trop dévoiler de choses, mais que l'enfant va cristalliser, notamment, à un moment donné, les tensions politiques. Et que... pour...
Enfin, moi, généralement... C'est difficile d'en parler du coup sans dévoiler ce qui va se passer. Quoi, mais...
voilà, mais j'ai, enfin, généralement dans les romans que l'on peut lire et tout ça, il y a toujours un traitement un peu à part pour tout ce qui concerne la maternité. Et là, le rapport à la maternité est très dur, je trouve. Après, c'est... C'est assez étonnant parce que dès le début, on voit que si on ne peut pas s'occuper de vous, vous finissez à la rivière, que malgré que le statut d'esclave n'existe plus, les enfants sont utilisés plus ou moins. Après, avec ce qui va être, se passer dans la troisième partie du roman, ils vont être aussi utilisés différemment. Et là, il va y avoir le rapport à la maternité et tout ça, parce que l'enfant devient, c'est marrant, à la fois... exprime la fin du monde et peut amener vers la fin du monde, la fin d'une société, et en même temps c'est ce qui permet de la renouveler. Et pour le coup,
une société, une civilisation, de toute façon elle ne continue à durer que si elle, elle se reproduit et transmet aussi ses valeurs. Donc il y a deux façons, il y a le fait aussi de la reproduction biologique pure et la transmission culturelle, quoi. Donc il y a vraiment les deux qui vont ensemble. Et du coup, voilà, c'est ce que j'avais essayé un peu de dans cette troisième partie.
Donc on va te parler et c'est
voilà.
Donc elle est super bien, la troisième partie aussi pour le coup. Je disais que c'était un roman très politique parce que vous abordez l'air de rien, beaucoup de thèmes. Et c'est justement ce qui est assez impressionnant, c'est que dans un roman de 300 pages, vous arrivez à faire passer beaucoup de messages. C'était un choix délibéré, enfin quelque chose qui vous tenait à cœur de faire justement des passer des choses à travers un roman de fantasy.
Non, c'était pas le but premier, mais c'est juste qu'effectivement, en habillant vraiment d'une intrigue et de personnages, forcément dans les liens entre les personnages, dans la façon dont cet empire pouvait tenir et tout, il y avait forcément des références historiques ou des choses comme ça.
C'est un personnage que l'on va voir évoluer notamment alors au gré de tout ce qui va se passer dans l'empire, mais aussi c'est un roman de fantasy, on vous parle d'ascension sociale et de chute.
C'est surtout
pour le coup. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'avais trouvé, enfin que j'ai trouvé super intéressant dans ce texte-là.
Oui, parce que ça revient un peu à... souvent la fantasy dans des univers médiévaux où finalement les sociétés sont présentées comme très figées. Beaucoup plus que ce qu'était réellement la cité médiévale d'ailleurs, mais enfin c'est une vision un peu tronquée en fait du Moyen Âge. C'est une vision un peu simplifiée du Moyen Âge souvent, enfin dans pas mal de romans de fantasy, pas tous, enfin ça évolue beaucoup quand même. Mais effectivement, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a la galerie de personnages de paysans qui vont être paysans et qui sont juste paysans et les nobles et voilà, et puis les grains de papier dont les enfants deviennent grains de papier et voilà. Et que c'est vraiment très figé en fait. Et je pense qu'effectivement, comme dans la réalité, ça se passait pas du tout comme ça. Enfin, il y avait aussi des possibilités. Il y avait des, enfin voilà, peut-être pas des choses incroyables. Enfin, l'enfant orphelin de fils de pêcheur qui devient roi. Voilà, on sait très bien que ça n'existait pas, mais il y avait quand même des ascensions sociales qui existaient. Bon après, voilà, encore une fois, j'ai pas fait référence à l'histoire. Moi, je voulais qu'effectivement cet empire permette cela. Parce que de toute façon, pour qu'un empire assez gros puisse exister longtemps, il est un peu obligé d'avoir un peu de porosité. Ne serait-ce que c'est un empire un peu fédéral, on va dire, puisqu'il y a plusieurs provinces. Il est un peu obligé d'intégrer les ressortissants des différentes provinces s'il veut pouvoir tenir en tant qu'empire, quoi. Et effectivement, il est aussi obligé d'intégrer des gens qui sont méritants et qui ne sont pas forcément issus des plus hautes classes de la société dans ces classes de la société, justement, pour pouvoir... on va dire, acheter un peu de paix sociale aussi.
D'ailleurs, Malvine est une diplomate très atypique, je trouve. Dans sa manière, en fait, de gérer les conflits, c'est quelqu'un de très pragmatique. Elle n'a pas du tout la vision de ce que pourrait être un état classique ou ce qu'on peut trouver ce qu'on peut trouver dans la fantaisie en général. Je trouve que, et par rapport à son regard de femme sur la société, c'est vrai qu'on a toujours ce petit problème, c'est qu'on ne peut pas trop en raconter, mais quand elle négocie, quand elle intervient dans un conflit, elle ne le fait pas comme tout le monde.
Oui, ouais, c'est le fait de penser un peu en dehors des sentiers battus et de...
Et ce qui permet de, même s'il va y avoir des choses de terribles qui vont pouvoir se produire, ça va, par ce regard, par cette attitude, par les choix qu'elle va faire, ça va pondérer, ça va diminuer. et ça va aussi apporter autre chose.
Mais c'était aussi un peu pour ça que justement, parler de sa capacité d'adaptation, ouais. Le fait aussi de s'adapter à une situation, à un contexte en fait. C'est pour ça que je voulais aussi la voir interagir dans l'archipel et pas la faire arriver directement à seule mairie, pour qu'on voit sa façon de fonctionner, qu'on s'habitue à sa façon de fonctionner. Pour qu'effectivement, une fois à seule mairie, on comprenne que oui, elle est comme ça, elle a un côté très pragmatique et parfois surprenant en fait.
Parce qu'on a l'impression, quand on la prend au tout début du roman, je vais dire ça comme ça, mais elle a un profil d'énarque quoi. C'est quelqu'un qui on a l'impression, on se dit, oh mince, zut, elle va correspondre à un certain académisme, à une manière de penser, d'être. Ça va être terrible, hein. Et en fait, pas du tout.
Ouais, notamment quand elle disparaît pendant quelques jours pour aller faire une.
Oui, pour aller faire un tour en cheval, voilà. Et faire une reconnaissance et se dire, ah, finalement, le grand projet qu'on avait décidé voilà, là, on va faire plutôt là. Et enfin, la voir un peu de façon, elle est complètement exubérante, peut-être qu'elle a des caprices ou des folies, mmh. Et qu'en fait, non, en fait, c'est plus posé que ça, c'est pensé, ouais.
En fait, c'est un roman initiatique où vous deux personnages, un n'en a peut-être pas conscience dès le départ, l'autre peut-être davantage par sa condition, par sa connaissance, par son, parce qu'elle est brillante, hein, travaille à la liberté tout simplement. Mmh. Et c'est peut-être ça le sens de ce livre et de ce que vous avez travaillé avec ces deux personnages. Hein.
Bah disons que travailler à la liberté comme ça, c'est effectivement quelque chose que fait Malvine et que ne fait pas du tout Liès, mais qu'il va peut-être apprendre à faire. Et une fois qu'il va se retrouver sans Malvine, il va être amené à le faire. Alors ça fait un peu bouchon ballotté dans les flots, hein, à certains moments. En même temps, voilà, il traverse des périodes pas très très sympas, on va dire. Hein. Mais globalement, finalement, il arrive à trouver sa façon de vivre sa vie en toute liberté. De se dire, je suis comme ça, je suis un étranger dans la ville, mais c'est mon caractère, c'est ma nature. Et en fait... Et c'est quelque chose qu'il apprend de Malvine, parce que Malvine, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer sa propre nature. Et justement, voilà, il y a une scène un peu importante là-dessus. Liès apprend, bien des années plus tard, à lui aussi vivre selon sa nature, et à élever sa famille comme ça. Et voilà, il trouve un peu sa place et sa façon de fonctionner. Et effectivement, elle est inspirée de Malvine.
L'un a appris de l'autre.
Voilà.
Et autre question. Quand vous les personnages secondaires sont des personnages très forts aussi. C'est-à-dire qu'on va retrouver la cohorte des gras de papier. Par contre, il y a un truc qui n'apparaît pas dans votre roman. C'est souvent, il y a une quête, qu'elle soit spirituelle, religieuse. C'est une donnée qui est totalement absente de votre roman, en fait. Leur quête, elle est pas du tout faite par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui n'intervient pas, notamment même dans le fonctionnement de l'Empire. Il n'y a pas cette catégorie des religieux.
Ouais, ça m'a pas inspiré en fait. Je saurais pas dire.
Non, c'est bien.
J'ai pas créé d'ordre. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est toujours le passage obligé du genre. Ah, j'ai créé un monde, il faut que je crée une religion.
Voilà,
et moi, ça me.
C'est un roman atypique par sa forme, parce qu'il proposait tout. Et justement, c'est génial, quoi, parce qu'on n'est pas passé par ça non plus. Mm. On n'est pas passé par le roman.
Mais c'est peut-être pour ça que les hommes et les femmes sont égaux.
C'est
peut-être
pas ça. J'osais pas le dire. Je ne voulais pas que ça vienne de moi. Pour le coup.
À votre service.
Merci. Non, mais j'ai trouvé ça. Justement, c'est un roman où. Alors, effectivement, c'est un roman à tiroir avec une présentation, en fait, ce jeu de narration, ce jeu d'énonciation. On joue sur une espèce de petite tension. On ne peut pas vous parler de cette troisième partie, parce que vous dites, peut-être depuis le début, pour ceux qui ne l'ont pas lu, on dit que c'est un roman de fantasy et où il y avait quand même, à un moment donné, quelque chose qui va être lié à l'imaginaire.
Il y a de la magie.
La magie. Et effectivement, ça va donner et permettre d'aborder quelque chose de complètement dans le roman, qui moi, quand je l'ai lu, m'a scotché, parce qu'en fait, les deux tiers du roman, c'est un roman quelque part que je suis pas obligée de classer dans mon rayon fantasy. Je peux le mettre sur ma table de littérature, je peux le mettre à peu près n'importe où dans la librairie et le conseiller comme un roman d'aventure, comme un roman social, comme un roman politique, plein de choses. Et en fait, par cette troisième partie, il va aborder quelque chose de complètement différent. Et là, on ne peut pas en dire plus, et c'est dommage. Et à la rigueur, la seule chose qu'on peut dire, sauf si tu as d'autres questions.
Non, je crois que tu as largement évoqué le plaisir, en tout cas, que l'on a à lire ce roman. Et je pense qu'il y a peut-être des
quelques
questions
de
lecteurs et de non-lecteurs.
Je n'ai pas lu, mais s'il n'y a pas de quête spirituelle dans votre monde, il reste que l'argent alors ?
Non, pas trop, non.
La question.
On ne parle même pas d'argent.
Non, il n'y a pas spécialement l'argent.
On parle d'esclaves en général, donc...
Ouais, mais il n'y a pas ce qui va avec justement, parce que là l'esclave, ça va être un prétexte pour parler d'une autre condition qui va évoluer.
J'ai une deuxième question à vous poser. Vous avez été éditrice.
Oui.
Pourquoi il n'y a pas assez de livres avec les écrivains et un artiste en France ou ailleurs, où on écrit un livre et où il y a un artiste qui est publié en même temps que le livre.
C'est rare,
hein. Ça serait super, ça, faire lier l'artiste avec le livre, avec le sujet, comme vous voulez. Il y a des artistes qui peuvent, par rapport à l'écrivain, faire quelque chose. Pourquoi il n'y a pas davantage de livres comme ça à la disposition des gens?
Je pense qu'il faut, il faut aussi que l'écrivain et l'artiste travaillent un peu main dans la main et soient d'accord pour faire ça, quoi. Donc,
pourquoi il y en a si peu?
Je sais qu'il y a des projets quand même, de temps en temps, comme ça, mais effectivement c'est rare, parce qu'il faut vraiment que ce soit un projet qui soit fait main dans la main et conçu main dans la main, sinon ça n'a pas trop de sens, quoi. Il faut que ce soit signifiant.
La culture, c'est tout ça. D'accord. Mais il y a eu quelques... Miro, par exemple, a fait des livres avec un écrivain, Cocteau. Pourquoi on ne relance pas ça pour vraiment le cadeau d'anniversaire, ou quelqu'un qui aime les arts et la lecture? Vous voyez ce que je veux
dire? Il faut vraiment trouver deux artistes qui acceptent de travailler ensemble.
Sûrement ça marcherait bien.
Je pense à quelque chose, mais la collection de poésie chez l'Iconoclaste tente de faire ça.
Oui, c'est vrai qu'il y a
une collection de poésie qui vient de sortir.
Ça s'appelle Iconopop.
Iconopop, qui associe.
C'est en plus assez génial.
Un poète et un.
C'est de la photo souvent.
Et en fait, là, il y en a un qui est assez impressionnant, c'est celui de Louise Combet, elle s'appelle. Elle est slameuse. Franco-belge, je crois.
D'accord.
Et en fait, pour le coup, il y a à la fois des photos et à la fois, effectivement, un texte en prose qui s'associe. Et là, ils ont sorti trois textes pour les débuts.
Il faut vraiment, effectivement, qu'ils aient un projet ensemble. Comme tu dis, qu'ils travaillent
Et Malzieu, ils travaillent avec ça.
L'écriture, je pense que les gens, les romanciers ou les romancières, travaillent dans leur coin, parce que ça demande un engagement personnel et des sacrifices personnels assez importants, quand même.
Parce que combien de temps pour écrire un roman travail
Alors pour l'écriture en elle-même, pas tant, c'est plus la conceptualisation et puis surtout le fait de devoir se libérer de l'espace mental pour y réfléchir. Ça a été le plus compliqué. Mais après l'écriture en elle-même, finalement, une fois que tout était sur les rails, ça n'a pas été si long que ça. Ça m'a pris 4 mois, mais effectivement avant ça a été très long en... en création de monde, création de personnages, réfléchir à la structure. J'avais un plan assez précis parce que je voulais que ce soit équilibré, justement, du fait que je voulais avoir un peu cette forme-là. Bon, après, voilà, quand on fait un plan, on n'est pas obligé de s'y tenir. Et effectivement, j'ai un peu dévié quand même. Mais il y avait autant de travail en amont qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire.
Dana, j'apprécie l'égalité homme-femme.
C'est un moment qui va vous plaire.
Oui, d'accord. Ah, naturellement. Cette Bible qui a mis en accusation la femme par rapport à l'homme pour le péché originel, c'est un péché commun. On se comprend. Il n'y a pas plus la femme que l'homme, si le péché existe, naturellement. Mais je suis complètement d'accord avec vous. On doit mettre à égalité l'homme et la femme. Alors là, je fais ça pour vous remercier.
Ben merci à vous.
On est d'accord. Voilà. J'ai plus rien à dire.
D'autres questions pour ceux qui l'ont lu?
Moi j'en ai une. Je trouve qu'on ne parle pas beaucoup s'il y a un gros rapport avec le temps dans votre. Moi j'ai pris en pleine face tout le temps. Le temps qui passe, le temps qui se fige, le temps.
C'est aussi pour ça que rien que le rythme était pensé aussi, parce qu'effectivement c'est un livre où tout tourne autour du temps en fait. C'est bon, alors du coup on peut
parce que moi je l'ai pas osé celle-là, parce que je me suis dit vas-y tu vas ramer après.
C'est
énervant. Hein,
mais c'est, ouais, c'était de là qu'était l'idée de départ, c'était de jouer un peu avec ces temporalités différentes.
Parce qu'en
de,
en fait, la troisième partie du roman va jouer avec cette idée du temps.
Là, on en dit un peu trop.
Ouais,
là.
Mais ça va.
Non, mais vous me regardez parce que moi je ne l'ai pas lu, mais je ne suis pas lectrice des romans fantasy, mais en fait je viens parce que tous les ans à Noël, mon fils sort un roman en entre
d'accord,
autres.
C'est cool ça.
Et je suis toujours en quête d'essayer de trouver quelque chose qui soit facile à lire par rapport à son métier, par rapport à. Et me faire découvrir, et jusqu'à maintenant j'ai réussi. Donc, mais quand j'ai vu. La présentation de notre ouvrage, ça m'a attiré dans ce sens-là. Alors, à la limite, je ne sais pas si je le lirai, mais je vais peut-être l'acheter. Et donc, vous pouvez peut-être dévoiler si je suis la seule à vous si ça gêne.
Félicité, j'étais là la première fois où vous avez fait. Vous vous rappelez, vous m'aviez dit que c'était la première fois. Vous étiez en tant que
ah oui, j'étais toute petite et que c'était la première fois que je faisais une rencontre. Oui, d'accord. Là, c'est le moment où c'est moi qui me prends la phare.
La première fois que vous avez fait la présentation.
Oui, oui, je me rappelle, c'était avec Mizubayashi. J'ai cru que vous alliez mourir de peur.
Je me rappelle.
Alors, est-ce que ça vous embête si on aborde en fait l'idée du temps? Ça vous gêne pas?
Non, non.
On peut.
Ok. Ok, allons-y.
Alors, posez vos questions maintenant.
Ouais,
vas-y.
Ouais, donc en fait, vraiment, moi, l'idée de base, c'était cette idée, effectivement, de prison temporelle et de soldats du passé, en fait, dans cette idée qui revenait dans la ville d'où ils venaient. Surtout dans une ville qui est très fière de ses origines et qui s'imagine qu'elle a des glorieux ancêtres et tout ça. L'idée, c'était de dire, mais si les glorieux ancêtres revenaient, en fait, ils vous mépriseraient. Ils vous mépriseraient, ils vous trouveraient vraiment abattardis, en fait. Donc, c'était ça l'idée. Ensuite, du coup, j'ai tout construit autour de cette idée pour que ça vienne comme une surprise et que ce ne soit pas le sujet principal, en fait, que ce soit le retournement. Voilà. Et effectivement, moi, j'aime bien les histoires un peu de paradoxes temporels ou alors de chronologies différentes. Et l'idée, c'était que cette haute Caïma, cette capitale, en fait, où il y a à la fois le village et le froid et toutes ces différentes couches temporelles, c'est la chose qui m'a mis le plus de temps à conceptualiser, alors qu'on en parle très peu dans le roman, parce que c'est juste la résolution de la disparition de Malvine qui a lieu à un moment. Et effectivement, tout le reste du roman a été construit pour arriver à cette révélation-là. Voilà. Après, voilà, je voulais quand même que ce soit un monde riche et intéressant, et que les personnages soient... voilà.
Ça, ça m'a étonné quoi. En plus, on sait, comme vous jouez sur un terme qui est fort, statue, on s'est imaginé des soldats de l'Antiquité.
Ah, voilà,
non, mais je les voyais déjà,
l'antiquité.
Mais en mode. Je me voyais dans Harry Potter, quand il y a un moment, t'as les soldats qui. Et en fait, je me suis dit, alors ça, c'est balèze. Le fait, en fait, de se dire que, effectivement, non, ce sont juste des hommes, de leur donner cette couleur grise, ce côté très, très impassif, très... Ah mais c'était énorme, quoi.
Oui, puis aussi, du coup, ils sont affectés par cette espèce de maladie, où effectivement, ils sont ralentis, où ils sont accélérés, où effectivement, un peu façon automate, en fait, hein, qui les rend un peu impressionnants et dérangeants pour les seuls méritants, quoi.
Mais, le jeu sur les regards, en fait, où à chaque fois, en fait, on a... Pardon, par un regard, notamment, on le vit bien en ce moment, se passe beaucoup de choses. Et là, en fait, on a quand il va y avoir ce temps dans le village, quand il va y avoir cette parade, hein, où en fait, ce moment de tension, de cristallisation de la tension, on dit tout peut se passer, on espère en tant que lecteur que ça se passe bien, et en même temps,
on se doute que ça va pas bien se passer du tout.
Et effectivement, ce que je disais tout à l'heure, ça va passer par le regard, ça va passer par la langue. On se dit effectivement que la langue, quand là on se rend compte qu'il y a plusieurs langues, il y a des dialectes, à partir du moment où on n'arrive pas à échanger et à se comprendre, tout peut mal se passer et en fait peut arriver, alors qu'au départ on était pétri de bonnes intentions, que normalement on avait réussi à faire un pacte ou quelque chose qui... Et en fait,
tout bascule quand même.
Et ça, le rapport à la langue dans votre roman et à la maîtrise de la langue et à tout ce que ça peut apporter de l'enfance... même quand maintenant on peut le lire avec les enfants. J'ai trouvé les dernières pages, et notamment les pages avec ces enfants qui grandissent, quand on sait qui est J'aime tout. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, je me suis fait avoir. Je m'en doutais un peu, mais je ne l'avais pas trop vu venir quand même. Et on se dit que quelque part, effectivement, on n'est pas dans une fin du monde, mais dans un renouvellement des civilisations, et que pour le coup, la fin est plutôt positive.
Oui, qu'en fait, comme il s'est passé à l'Antiquité, où effectivement les deux peuples ont fini par se mélanger à faire des enfants et à donner les seuls méritains d'aujourd'hui, il va se passer plus ou moins la même chose, mais après de façon dévoyée, parce que l'ennemi ne peut plus procréer, mais leurs enfants vont être élevés en partie par l'ennemi, donc du coup cette transmission culturelle va se faire, et du coup il y a une nouvelle civilisation métissée qui va se créer à partir de ça.
En forme de cosmopolitisme, grâce à quelque chose de... qui est terrible, parce que l'histoire a été terrible, il y a eu guerre, il y a eu, en fait, il y a eu le dominant et le dominé, et en fait, par cette espèce de revers temporel, on peut créer quelque chose, effectivement, grâce à ce mélange et à cette mixité qui va se créer, malgré eux, en fait.
Oui, on sent aussi que ça devient une civilisation, c'est pour ça que j'ai fait cette scène finale, en fait, où on explique qu'ils vont construire un beffroi sur, globalement, qu'ils célèbrent les 50 ans de cet événement, c'est que, globalement, cette histoire, elle leur est devenue commune, en fait. Donc, ils font ce beffroi avec des tomates, où il y a à la fois des ennemis, à la fois les bourgmestres de l'époque, et que ça devient la culture de cette nouvelle ville, en fait, qui est un mélange des deux civilisations qui sont retrouvées.
Comment, en fait, on peut créer quelque chose à partir de quelque chose qui a été douloureux et terrible, parce qu'effectivement, quand on regarde les conflits dont on nous parle beaucoup, en fait, on se rend compte qu'il y a toujours cette séparation, que rien n'est possible, et ça, justement, ce retournement, en se disant que l'un était dominant à l'autre, à un moment donné, et dominé à un autre moment. On dit ce qui est assez terrible, c'est qu'il faut passer par ces épreuves, par cette histoire terrible, pour, dans le silence, par le fait qu'on ne célèbre pas parfois un moment, parfois qu'on évite des événements, parfois qu'on évite de se dire aussi certaines choses, qu'on ne parle pas de tout, et bien peut-être aller de l'avant et créer quelque chose.
Mais des frictions comme ça, de toute façon, ça ne peut pas se faire justement sans exploser. Et là, il se trouve qu'effectivement, ça explose dès le début, dès la parade, même si Malvin essaye de jongler pour que ça explose le plus tard possible, mais sans cette explosion là et les morts qu'il y a eu, il n'aurait pas été possible finalement d'arriver à tout ce processus de pardon, les procès, des trucs qui sont très administratifs en plus, et des trucs qui sont du coup plus touchants comme les transmissions, les enfants, les...
C'est aussi un rapport, enfin, vous en parlez aussi beaucoup de la transmission, alors il va y avoir tout ce passage à la fin autour des livres, autour des livres qui sont donnés aux enfants, autour de cette histoire que l'on transmet, et en fait c'est marrant parce que quand on raconte des histoires, il y a ce côté qu'on transmet, il y a le mythe, il y a ce qu'on partage, qu'on transmet au fil des histoires, au fil du temps et qu'on a transformé. Et là, quelque part, on a l'impression que par le livre, que par les échanges qui vont se créer, même au niveau des échanges de langue, les maladresses qu'on n'ose pas toujours se dire et tout, et bien pour le coup, il va y avoir quelque chose de plus clair, de plus fluide, de plus transparent, et qu'à avoir mélangé un petit peu tout ça, et bien peut-être même qu'on va pouvoir créer une nouvelle langue, qui sera ni l'arnique, ni le solméritain, mais autre chose. Et là, je crois que c'est un super roman.
Voilà, il
nous
a monté comme ça en puissance.
Et j'espère qu'on en a bien parlé.
En tout cas, on parle beaucoup de vie, à se battre sur tous les réseaux, etc.
Ah ouais, oui, j'ai eu des bons retours.
C'est le départ, quoi. Enfin...
Moi, c'est juste la dernière page, cette âme sombre.
T'avais une question, Madeleine ?
Non, c'était du roman revient dans le temps. Donc, c'est bon.
J'ai une question à vous dire. On voit toujours le monde. Déjà, j'aime pas l'expression la fin du monde. Déjà, on devrait dire la fin d'un monde, pour être plus rassurant, déjà.
Mais c'est tout à fait ça dans le roman, justement.
Dans la même dimension. Pourquoi on n'imagine pas un nouveau monde dans une autre dimension? Vous comprenez ce que je veux dire?
Vous avez des projets...
C'est pas facile.
Vous avez d'autres projets d'écriture, toujours en...
Oui. Oui, en fantaisie aussi, bah, l'année prochaine, au Forge Vulcain.
Et par exemple, vous n'auriez pas publié votre roman, non? Vous auriez pu publier votre roman, même si ça sortait de la ligne éditoriale d'Asphalte, mais non.
Ah non, non, non. Non, je pense en auteur, on a vraiment besoin d'avoir un regard extérieur et d'avoir du recul sur... en tout cas, moi, je n'aurais pas pu me publier moi-même, quoi, non. Non, non. Et pour l'année prochaine, en fait, je l'ai déjà raconté comme j'ai apporté mon manuscrit à David et qu'il était blême en se disant ah, il va falloir refuser
ça. C'est
ça.
Terrible, ça.
Ouais, et ben j'ai fait pire après, je lui ai apporté le manuscrit de mon compagnon en lui disant ce serait sympa si tu pouvais le dire un mot. Et, il était... et en fait, il l'a trouvé bien et il va le publier. Et en fait, il se trouve que c'est un univers partagé entre lui et moi qui n'a aucun rapport avec un long voyage. Mais c'est du coup un cycle commun qui va commencer l'année prochaine. Ça se passe dans un même univers, il y a deux villes, une ville au nord, une ville au sud. Lui, il va faire une trilogie sur la ville du sud. Moi, je fais une trilogie sur la ville du Nord. Les intrigues vont finir par se rejoindre au bout d'un moment. Tout ça dans le même univers. Voilà, donc ça commence l'année prochaine.
Waouh.
Éditeur à du boulot.
C'est vrai que
éditeur
généralement,
à du boulot.
Quand être éditeur ou être éditrice, il faudra que tu complètes juste après, c'est dire non à des gens qu'on connaît. Et c'est toujours très délicat parce que souvent, c'est une règle, c'est pas parce qu'on est ami avec quelqu'un qu'on va le publier. Et moi j'ai publié très très peu d'amis. Je suis souvent devenu ami avec des auteurs, mais pas tous les auteurs, mais une grande partie. Et sauf que j'ai énormément d'amis qui m'ont proposé des manuscrits à qui j'ai dit non. Donc c'était un peu la difficulté quand j'ai reçu le manuscrit de Claire, ça serait difficile parce que en fait, être éditeur ou éditrice, ça fait pas nécessairement des bons romanciers. Je pense que ça fait parfois des bons élèves, c'est-à-dire des gens qui font des textes qui tiennent la route. Mais être un bon romancier, une bonne romancière, il faut avoir une sorte de nécessité intérieure qui vous amène beaucoup plus loin. Le fait d'être éditeur et éditrice fait que cette nécessité intérieure va être canalisée et va aboutir à quelque chose. Mais il y a beaucoup de romans d'éditeurs ou d'éditrices qui sortent, mais qui sont très courts en bouche parce qu'il manque ça. Et je pense que l'intérêt du texte de Claire, s'il y avait cette puissance intérieure qui arrivait et ses compétences techniques qui faisaient que par-dessus, elle arrivait à canaliser ça. Et après, quand elle m'a parlé de ce projet de roman de son compagnon, là j'ai eu très très peur parce que je me disais c'était quand même
j'ai dit oui une fois,
très improbable.
Faut savoir dire non, moi j'y arrive pas.
Très improbable, oui, là c'est vous la règle, il faut savoir dire non.
Oh. Et ben là non plus j'ai pas réussi.
Au mari et femme de nos auteurs et autrices. Et en fait je me disais que c'était quand même assez improbable statistiquement que les deux écrivent bien. Voilà, que les deux aient un projet personnel, riche. Voilà. Et en fait, ce qui m'a encore plus surpris, c'est que non seulement le texte de Guillaume Chemin Edition est un très bon texte, mais c'est que, en fait, même s'ils s'influencent l'un l'autre, ils ont des styles très différents. Ce qui les distingue aussi de grands couples d'écrivains. Alors, j'allais dire les époux Rémy, mais les époux Rémy, en fait, ils écrivent le même texte.
Ouais.
Ada et voilà, ils écrivent
Nina
ensemble.
Je peux dire Nina Allan et Christopher Priest, par exemple.
Voilà, c'est
bon,
ça.
C'est un petit
perflateur, ouais. Nina Allan
et
Christopher Priest.
Ou alors la classe proche, internationale, en fait, quoi.
Ils ont une manière d'écrire en anglais qui est assez proche, en fait.
C'est pas non plus un roman en quatre mains comme Bessie Hickman ou ce genre de
choses. Ah oui, ouais, voilà, ouais, c'est vrai.
Là, on est dans des styles assez différents, puisque finalement, Claire est dans une fantaisie qu'on pourrait qualifier de contemplative, voilà. Et à l'inverse, Guillaume est dans une fantaisie beaucoup plus pulp, beaucoup plus Alexandre Dumas, avec un sens du rebondissement et avec des personnages pleins de panache, d'audace, d'honneur, et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun, ces deux traditions littéraires qui sont cousines, en fait, c'est les deux traditions de la fantaisie, c'est-à-dire c'est d'un côté Conan le Barbare, d'un autre côté Tolkien. Mais si, je pense que Tolkien, c'est pas un maître que tu reconnais, enfin
non,
voilà, c'est pas une de tes références, en fait. Donc, mais c'est quand même les deux traditions de la fantaisie, et les deux, finalement, se retrouvent à aboutir à des récits différents, c'est-à-dire les deux villes dans ce grand projet qui s'appelle La Tour de Garde. Chaque ville inspire une trilogie, et en fait les tempéraments des villes, des personnages et les styles littéraires, tout ça, voilà. En fait, c'est que je pense que ce qui est intéressant dans tous les projets de Claire, c'est que un défaut parfois de l'imaginaire, c'est qu'on va dissocier les questions de fond et les questions de forme. Il y a alors des très bons romans d'imaginaire qui sur le fond sont très bons parce qu'ils sont bien construits, l'histoire, mais la langue est trop simple parfois, et je pense que le problème parfois avec la littérature générale, c'est qu'on oublie de raconter des histoires. Et il faut conserver cette ambition de faire des fonds-formes, c'est-à-dire des choses qui sont sur le fond et sur la forme qui sont pensés comme des vraies œuvres d'art, c'est-à-dire le fond informe la forme inspire certains fonds. Et voilà, et c'est ce qu'il y a dans Un long voyage, et c'est ce qu'il y a de nouveau dans La Tour de garde, sauf que c'est pas la même forme, c'est pas le même fond, parce que les deux ont varié en fait, le fond et la forme. Voilà. Donc voilà, l'an prochain on commence.
C'est quand ça
Alors celui de Guillaume c'est avril, avril ouais. Le centre de la cité. Et le mien ce sera octobre.
Voilà. On est impatients de les lire. Hein.
Et ça sera avril, octobre, avril, octobre, avril, octobre.
D'accord, c'est bien ça. Voilà. Ça va être cool.
Vraiment
Je veux bien, c'est
4 ans. Mais oui, tu
vas l'avoir. Oui, alors tu m'emmerdes. Bon, bah, en tout cas, c'était passionnant. Et on est juste désolé qu'il n'y ait pas eu plus de monde. Remarquez, il y a plus de questions que d'habitude.
Moins la lecture de
Merci pour l'imaginaire.
Purement merci, amateur de littérature.
Enfin, un amateur éclairé, quoi.
Aussi.